Chapitre 1. Gravity. Égarés dans la voie lactée infernale, les héros s'appellent Bob Moran. On pense ici à Bob Crippen, Bob Parker, Barbara Morgan, Moran, ou encore Andrew Morgan, Moran, tous astronautes, et d'aucuns diraient véritables rockstars dans notre société. Pour preuve, la frénésie médiatique qui accompagne chacun de leurs retours sur Terre, notamment dans leur pays d'origine, ou encore leur show dans l'espace, comme celui de l'astronaute canadien Chris Hadfield, flottant en apesanteur, interprétant, guitare à la main, un morceau de David Bowie visionné des millions de fois sur YouTube. Leurs aventures et leurs exploits hors normes par-delà l'atmosphère terrestre viennent nourrir notre imaginaire, et leur confère une dimension héroïque. Ils sont des icônes spatio-temporelles, et, comme toute icône, on leur attribue des facultés extraordinaires qui les différencient du simple commun des mortels. Voici les chevaliers Bayard des temps modernes, au sang plus froid que chaud. Sans peur et sans reproche, ces nouveaux héros? Patrick Baudry semble le confirmer. Celui qui fut le deuxième astronaute français à aller dans l'espace me confie la chose suivante. Déjà tout petit, j'ai toujours maîtrisé mes émotions. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Et il enfonce le clou. Vous savez, les émotions et les états d'âme, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Le propos colle à l'image de l'aventurier qu'est Baudry, qui, pour la petite histoire, au moment de monter dans la navette Discovery, portait sur sa tête un béret basque, tenait une bouteille de vin de Bordeaux et serrait sous son bras une baguette de pain. Des signes de confiance en soi, de force et de maîtrise absolue de son sujet, qui rappellent étrangement les gestes d'avant-course d'Usain Bolt. En soi, cette posture du gagnant n'est pas surprenante, tant les astronautes sont conditionnés et formés dans le but de constituer de véritables machines à calculer, sonder, expérimenter, réussir, explorer, et que du coup, ils semblent peu heurtés émotionnellement par l'enjeu de l'événement. Voyons de plus près comment ils ont fait pour en arriver là. Primo, ils possèdent tous un solide bagage universitaire, constitué d'études poussées jusqu'au terminus. Prenez par exemple Claudie Aigneret, surnommée Bac plus 19, avec en poche notamment un doctorat de médecine et un autre en neurosciences. À cette exigence académique qui sonne comme un prérequis, s'ajoutent de rudes et longues préparations et entraînements durant lesquels rien n'est laissé au hasard. Une préparation digne de celle d'Ivan Drago. Vous vous souvenez, le musculeux russe qui affronte Rocky Balboa dans Rocky IV, et qui, pour la petite histoire, est interprété par l'acteur Dolph Lundgren, aussi diplômé que vitaminé, avec un QI de 160. Comme quoi, les deux qualités ne sont pas incompatibles. Ces entraînements intenses et savamment élaborés permettent à l'astronaute d'apprendre, à l'aide d'outils et de techniques hyper sophistiquées, à se mouvoir en apesanteur, à s'habituer à l'environnement spatial confiné et à mener à bien des expériences scientifiques pointues pendant les missions spatiales. Toute cette dépense physique et psychique et la rigueur qui l'accompagne leur permettent d'assimiler des automatismes parfaitement huilés. Au final, un esprit cartésien se loge dans un corps d'athlète, et le mélange des deux donne naissance à cette créature extraordinaire qu'il me fallait absolument étudier. Une posture supermanesque. Jean-François Clairvoy, fort de 3 missions spatiales avec la NASA, dont la dernière en 1999, semble raccord avec l'image de l'astronaute surhomme, capable de rester calme et analytique en toutes circonstances. En soi, notre environnement pourrait être stressant pour un novice. Envoyez monsieur et madame tout le monde là-haut sans diplôme ni préparation, et c'est la cata. Une sorte de projet Blair Witch en pire, m'explique-t-il. Car il y a plein de bruits bizarres, des boutons qui s'allument partout dans la navette et dans la station et qui peuvent être anxiogènes. Ajoutez la pesanteur, l'isolement, les positions de sommeil difficiles à trouver quand on n'est pas entraîné, et tout cela peut vite virer au cauchemar. Mais pas pour les astronautes. Le fossé se creuse entre le commun des mortels et les aventuriers de l'espace. Il poursuit. Il y a en fait très peu de cas de panique collective là-haut, car les astronautes sont des machines pensantes surentraînées. On passe des milliers d'heures à essayer de tout envisager, y compris les pires scénarios catastrophes. Cela laisse peu de place aux zones d'incertitude et aux doutes. Même au décollage, en tant qu'équipage formant une unité soudée et coordonnée, on se sent Superman, car on est en confiance. On part du principe que les équipes au sol, composées de gens très intelligents, ont tout contrôlé minutieusement. Bref, qu'elles ont fait le job. Les images de Challenger qui explosa en 1986, ou d'autres fusées pulvérisées en plein vol, ne nous traversent même pas l'esprit. En fait, je dirais que la posture supermanesque est avant tout un pare-feu aux émotions négatives telles la peur ou l'angoisse, qui pourraient littéralement nous paralyser, nous figer. Notre connaissance parfaite du vaisseau jusqu'au moindre boulon, associée à notre conviction acquise en simulateur de savoir faire face à toute situation anormale, nous protège de la nocivité des émotions négatives. La peur est un sentiment provoqué par l'inconnu, qui s'inviterait si nous partions sans avoir été entraînés. Quelques secondes de réflexion plus tard. J'ajouterai que cette posture supermanesque qui filtre les émotions négatives a aussi pour vertu de laisser passer les bonnes émotions, les émotions positives. En effet, se sentir fort dans l'espace laisse libre cours à l'expérimentation des émotions positives telles que la joie, la fierté, l'émerveillement, la conviction de réussir la mission. Des émotions essentielles au bon fonctionnement de l'équipe. Une porte s'entrouvre. L'astronaute peut donc, lors de ses périples dans l'espace, ressentir et partager à minima des émotions positives. Leur propagation est bien réelle et très prégnante dans cet univers-là. Je ne le nie pas. Néanmoins, je ne suis pas certain que les émotions négatives, comme l'anxiété et la peur, ne transpercent pas l'épaisse cuirasse de l'inconfortable combinaison spatiale de certains de ces supermen. Patrick Baudry le reconnaît à demi-mot. J'en ai quand même vu des gens, pilotes d'essai ou astronautes, qui sont très émotionnels et qui ont besoin de confort, de soutien et de partager leurs émotions, agréables comme désagréables, sur Terre et dans l'espace. Leur combinaison spatiale les protège du vide et des températures extrêmes, mais, in fine, peut-être pas forcément d'eux-mêmes, ni des autres. Creusons donc davantage les contours du personnage tracé. Voyons si le décor ne modifie pas un tant soit peu sa psychologie en tentant de suivre, chronologiquement et émotionnellement, le parcours d'un astronaute engagé dans une mission spatiale. Pour ce faire, j'ai fait appel à Jean-Jacques Favier, le sixième Français à être allé dans l'espace. En 1996, soit 11 ans après avoir été sélectionné par le CNES, il embarque à bord de la navette Columbia, qui décolle du Centre spatial Kennedy, en Floride, pour la mission STS-78. Il passe avec 6 acolytes, 5 hommes et une femme, 16 jours, 21 heures et 48 minutes dans l'espace. Membre prestigieux du jury de sélection de l'Agence spatiale européenne, il accepte de nous faire vivre de l'intérieur comment, d'un point de vue émotionnel, un astronaute appréhende un départ dans l'espace. Une mise à nu assez rare. 15 jours avant le décollage. Après des mois de préparation intensive à n'en plus finir, les astronautes abordent enfin la dernière ligne droite. Jean-Jacques Favier décrit la bulle dans laquelle ses space congénères et lui sont alors placés pour les protéger de l'extérieur. On est en quarantaine 15 jours avant le vol, pour éviter que d'autres personnes puissent nous contaminer, au sens médical du terme, mais aussi d'un point de vue psychologique. J'insiste sur ce point car nous devons absolument éviter qu'elles nous transmettent, outre leurs germes, de mauvaises ondes. Nous voilà donc en vase clos, comme dans une bulle protectrice, en milieu stérile et isolé au maximum de l'environnement extérieur. Il nous arrive de faire quelques simulations sur des appareils techniques, mais nous sommes alors entourés par des gardes du corps, qui nous ouvrent le passage, afin de s'assurer que les ingénieurs ne soient pas à moins de 10 mètres de nous. La NASA a une expression pour cela. On met l'équipage dans la configuration intouchable. L'astronaute placé dans une bulle. Le commencement de l'héroïsation. De l'avis de Favier. Cela nous met dans une situation un peu étrange. On n'a jamais eu l'occasion de se retrouver dans cet état-là, sur un piédestal comme une starlette hollywoodienne que les membres du plateau de tournage n'ont pas le droit d'approcher. Partout où l'on va, on a l'impression de recevoir des haies d'honneur, mais à distance respectable pour conserver notre protection immunitaire et mentale. Et très rapidement, une barrière physique et psychologique s'installe entre nous et le reste du monde. La plupart des gens que l'on va croiser, et avec qui on a eu des relations amicales pendant des mois, pour certains des années, vont devoir nous éviter. Ainsi sont placardées sur les murs des couloirs de la NASA les photos des 7 membres de l'équipage, accompagnées de la mention « Untouchable » en anglais. Message on ne peut plus clair. Mais émotionnellement intouchables, le sont-ils vraiment ? La veille du décollage. La veille du décollage, les astronautes sont autorisés à rencontrer une dernière fois leur famille et leurs amis. C'est exactement comme dans le film Apollo 13, nous raconte Favier. On a la possibilité de faire venir notre famille et nos amis proches, des gens auxquels on tient. C'est très important, surtout pour un non-américain comme moi qui a passé 5 ans aux États-Unis, loin de ses proches, pour préparer la mission. Mais la scène est un peu étrange. Elle se joue à côté du fameux pas de tir 39B. La navette est derrière les astronautes et fume de partout parce que les réservoirs sont déjà à moitié remplis. Les astronautes arrivent et descendent d'un minibus en combinaison bleue. Favier décrit ce moment. Vous vous retrouvez devant une centaine de personnes, parmi lesquelles vos 5 ou 7 invités à vous. Vous les distinguez mal et ne pouvez les approcher, car ils sont de l'autre côté d'un grand fossé. Une distance d'une 20aine de mètres vous sépare. C'est un moment très fort, émotionnellement parlant. Là, vous essayez de leur parler, un peu comme au parloir. Les 7 astronautes sont les uns à côté des autres sur la même rive, donc c'est à celui qui criera le plus fort pour se faire entendre. Vous avez en face de vous, sur l'autre rive, des gens que vous n'avez pas vus depuis plusieurs années et qui sont très émus. Vous ne savez pas quoi leur dire et eux ne savent pas trop quoi vous répondre. Mais l'émotion est prégnante. Elle passe par le non-verbal, les expressions du corps et du visage qu'on distingue à peine, mais qui font leur effet. C'est comme si on vous jetait des émotions en plein cœur. D'un point de vue psychologique, c'est extrêmement impactant. Beaucoup d'astronautes pleurent. En ce qui me concerne, c'était impossible de ne pas laisser échapper de chaudes larmes qui ruisselaient abondamment sur mes joues. Nous étions gagnés par tant d'émotions fortes et puissantes qu'il ne servait à rien de lutter. C'était peine perdue. Je me souviens que de la tristesse, celle de quitter ses proches, se mêlait à de la joie, celle de réaliser notre rêve de gamin. Ce yo-yo affectif était étrange. J'étais satisfait que cela se termine vite, afin de retrouver rapidement ma sérénité, en me décontaminant de ces émotions déstabilisantes. Le jour J. C'est un jour important, qui peut tourner à la catastrophe. Continue Favier, d'un ton grave. En effet, des images hantent l'esprit de certains astronautes avant le décollage. Par exemple, celle de la navette Challenger, qui explosa 73 secondes après son décollage en 1986, entraînant la mort des 7 membres d'équipage. Tous n'avouent pas y penser, arguant que le risque aujourd'hui d'un crash est quasi nul. Mais beaucoup m'ont glissé, en off, quelques jours après notre premier entretien, qu'ils y avaient tout de même songé, une fois attachés à leur siège, le jour du décollage. La raison ne triomphe pas toujours. Une note morbide plus salée qu'il y paraît entache réellement cette journée de fête. Pour preuve. Le jour du décollage, on se lève tôt, en sachant que la NASA vous a demandé de faire votre testament. Cela alourdit l'atmosphère, me livre Favier. L'agence vous fait ensuite remplir un questionnaire pour savoir si vous avez bien payé tous vos impôts, au cas où vous ne reviendriez pas. Et notez que quelques mois auparavant, on vous a pris, au cas où cela tournerait au drame, une photo de la plante de vos pieds. Une sorte d'empreinte digitale unique de l'extrémité des orteils, qui possède des sillons caractéristiques sur l'épiderme, et qui peut servir à vous identifier si vous mourrez dans un incendie de la navette. Car, sachez-le, les propriétés ignifuges et la robustesse des chaussures que portent les astronautes font que leurs 2 pieds sont les parties les mieux protégées du corps. Le testament, plus les autres documents administratifs morbides, plus le shooting palmaire, ça fait beaucoup. Et vous amène forcément à avoir des pensées un peu noires à certains moments. Ce folklore macabre qui accompagne la conquête spatiale est perpétré à travers le jargon utilisé par la Corporation des astronautes. Il compare avec humour leur habitacle à un cercueil, parce que, disent-ils, on s'y sent à l'étroit et cela peut réellement faire office de sarcophage si les choses tournent au vinaigre. Des faits d'histoire viennent eux aussi hanter les esprits. Ainsi, le 18 juillet 1969, soit 3 jours avant l'alunissage du module Eagle de Neil Armstrong et d'Edwin Aldrin, mission Apollo 11, le président américain Richard Nixon aurait rédigé une sorte d'éloge funèbre au cas où les deux astronautes ne seraient jamais revenus sur Terre. Je vous livre ce discours chargé émotionnellement. Le destin a voulu que les hommes qui sont allés explorer la Lune en paix y resteront pour reposer en paix. Ces hommes courageux, Neil Armstrong et Edwin Aldrin, savent qu'il n'y a pas d'espoir pour leur récupération. Mais ils savent aussi que leur sacrifice est porteur d'espoir pour l'humanité. Ces deux hommes sacrifient leur vie pour le dessein le plus noble de l'humanité, la recherche de la vérité et de la compréhension. Ils seront pleurés par leurs familles et amis, par la nation, par le peuple du monde et par la Terre qui a osé envoyer deux de ses fils dans l'inconnu. Par leur exploration, ils ont poussé les peuples de la Terre à se sentir un. Par leur sacrifice, ils renforcent la fraternité entre les hommes. Jadis, les hommes regardaient les étoiles et voyaient leurs héros dans les constellations. Aujourd'hui, nous faisons la même chose, mais nos héros sont des hommes héroïques de chair et de sang. D'autres suivront et réussiront sûrement à rentrer. La quête de l'homme ne sera pas reniée. Mais ces hommes étaient les premiers et resteront les premiers dans nos cœurs. Parce que chaque être humain qui regardera la Lune dans les nuits à venir saura que des hommes sont pour toujours quelque part dans cet autre monde. Avant de prononcer ce discours à la nation, Nixon aurait pris la peine d'appeler les futures veuves. Dans la foulée de ces terribles coups de fil, la NASA aurait rompu la communication avec les astronautes piégés à jamais sur la Lune, et un prêtre, en guise de baisser du rideau, aurait récité un Notre Père, un peu comme lors de funérailles en mer, en l'absence de corps. Dans cet état d'esprit, il est à présent temps pour les astronautes d'aller à la rencontre de leur destin. Jean-Jacques Favier narre les derniers hectomètres à la manière de certains commentateurs sportifs qui, gagnés par l'adrénaline, ressentent une pointe d'excitation lors des derniers lacets d'un col hors catégorie. Nous voilà enfin autorisés à quitter le bâtiment de Cap Canaveral, où nous étions en quarantaine. Une dernière aide d'honneur de privilégiés présents sur place nous accompagne lors de notre sortie. Nous nous dirigeons alors vers un petit bus en aluminium des années 1960, celui-là même qu'utilise la NASA depuis ses tout premiers lancements. Tous vêtus d'une combinaison orange, une mallette à la main, qui n'est autre que le système de thermorégulation de la combinaison, on dirait presque des banquiers de la City, la légèreté et la couleur du tissu du costume en moins. Le bus doit nous emmener au pas de tir de la fusée. On dit souvent que certains lieux sont chargés d'histoire et qu'il s'en dégage une atmosphère émotionnelle palpable. Eh bien, ce bus en est l'exemple type. Tous mes héros, depuis le début du programme spatial, se sont assis à l'intérieur. À commencer par John Glenn, héros parmi mes héros, le premier astronaute américain à être allé en orbite. Nous nous laissons tous bercer par ces images d'anciens qui nous viennent en tête. C'est ainsi que les 5 à 10 premières minutes dans le bus, tout l'équipage est envahi par des émotions positives extrêmement fortes. On voit sur les visages de grands sourires candides et on entend des cris de joie, ça chahute de partout. Il s'agit d'un vrai aboutissement. J'ai dû patienter 11 ans pour en arriver là. Je vous laisse imaginer le soulagement. En me racontant cet épisode, je sens Jean-Jacques Favier revivre ces émotions qu'il n'avait pas dépoussiérées depuis un certain temps. Les crépitements dans la voix retranscrivent parfaitement ce qu'il a pu ressentir à cet instant précis. Au fil des kilomètres parcourus, l'ambiance change. La deuxième partie du trajet voit les mines se griser. L'excitation, la fierté et l'émerveillement laissent place à des pointes d'angoisse et le stress est réellement palpable. Les anciens donnent quelques conseils aux débutants qui ont besoin d'être rassurés. Plus on approche du pas de tir, plus l'équipage se crispe. Les mains sont moites, le cœur s'accélère. Nos regards sombres se croisent furtivement. Pas de doute, l'anxiété s'est répandue comme une traînée de poudre. À partir de ce moment, c'est le point de non-retour et il faut se concentrer. Le bus arrive à son terminus. Le chauffeur ouvre les portes et tout le monde descend. Fouler le sol du pas de tir est émotionnellement puissant. Se dresse devant nous à la verticale, la navette, avec ses immenses réservoirs qui alimentent les moteurs principaux. À l'entraînement, cela grouillait de monde, alors que le jour du départ, il n'y a pas un chat. C'est assez déstabilisant. De plus, compte tenu du danger d'explosion de l'engin, il faut savoir que les premiers secours sont à 5 km. Autant dire qu'en cas de pépin, vous ne pouvez compter que sur vous-même. On a beau avoir passé en revue de nombreux scénarios à l'entraînement, notamment celui de la navette Challenger, ce n'est pas la même chose une fois en situation réelle. À ce moment, on se fait peur. Avant de monter tout en haut de la fusée, les astronautes s'adonnent aussi à un petit rituel, comme nous l'explique Favier. La tradition veut que l'on fasse le tour de la navette sur le pas de tir, pour voir si tout est OK. Cela porte bonheur. C'est un protocole qui n'a pas de sens rationnel particulier, si ce n'est que d'un point de vue psychologique, cela nous permet d'être unis émotionnellement et de nous sentir, en tant que groupe, forts. Une fois leur ronde chamanique effectuée, les astronautes s'adonnent à un ultime rituel, en touchant par superstition la queue de la navette, pour leur porter chance. Puis, ils empruntent l'ascenseur d'une grande tour. La montée fait 80 mètres. Au bout de l'ascension, une plateforme qui leur permettra d'entrer dans la navette. De là-haut, on voit l'océan et le centre de contrôle. Le jour du décollage, il faisait très beau. S'émeut encore Favier. Sont nichés sur la plateforme trois membres du corps des astronautes, tous de blanc vêtus, et que l'on connaît bien. Ils nous aident à nous installer car nous avons 40 kilos de matériel sur nous. Autant dire que l'on n'a pas la souplesse d'un danseur étoile. Du coup, c'est très difficile de prendre place à l'intérieur de la navette. Les uns après les autres, nous devons regagner notre siège orienté à la perpendiculaire par rapport au sol. Pas un bruit. Tout le monde est concentré et s'arme de patience. Surtout quand on est le dernier à entrer, comme c'est le cas pour Jean-Jacques Favier, spécialiste de la charge utile dont la place est proche de la porte. Ce n'est qu'après une bonne heure d'attente que son prédécesseur amorce sa lente installation dans le mid-deck, le compartiment inférieur de l'habitacle, situé sous le flight deck, le cockpit, toujours accompagné des hommes en blouse blanche, qui vont le sangler solidement à son siège. Une image m'a traversé alors l'esprit, celle de la contention de malades en hospitalisation psychiatrique. Vous savez, quand les équipes médicales attachent des patients atteints de troubles mentaux et les enferment dans une chambre d'isolement. Étions-nous tous fous? Le doute m'habite. Jean-Jacques Favier continue. J'ai pris soudainement conscience d'être tout seul, à l'air libre, sur la plateforme. Seul au monde, une bonne dizaine de minutes. Dans ces moments-là, le temps devient flou, et on se déconnecte de la raison. Il n'y a plus de début. Il n'y a plus de fin. Pour m'occuper l'esprit, je fixais au loin le centre de contrôle en essayant de deviner sur la terrasse principale les silhouettes de ma famille. Je voyais de là-haut la navette qui fumait. Je pensais au mien. Dans mon dos, la cabine d'ascenseur que je me suis mis à fixer avec insistance, comme une obsession. En une fraction de seconde m'est venue à l'esprit cette phrase. « Si tu veux te barrer, c'est ta dernière chance. Après, il sera trop tard. » Une pointe d'angoisse qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle qu'éprouve un type qui tergiverse au moment de sauter pour la première fois à l'élastique dans le vide. Quelques minutes plus tard, je me suis dit « Arrête tes conneries. Te laisse pas gagner par cette émotion. » Cette angoisse restera sur terre. Une fois tout ce joli monde installé, la sadique attente perdure, plus d'une heure. Mais pendant cette phase-là, la NASA fait tout pour nous occuper l'esprit et nous faire oublier que nous sommes assis sur un baril de poudre. Nous restons constamment en liaison avec le centre de contrôle qui nous demande de checker ceci ou cela. Nous participons tous au contrôle de procédure, sachant pertinemment que les ingénieurs du centre ont toutes les télémesures devant leurs écrans d'ordinateur et qu'ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour savoir. Le décollage. Go ! La navette spatiale, propulsée par une fusée lors de son lancement, va décoller. Pendant cette phase-là, les astronautes, qui n'ont rien d'autre à faire car tout est automatisé, se remémorent les 8 scénarios d'évacuation de la navette en cas de problème. On les connaît par cœur, ces scénarios, me confie Jean-Jacques Favier. Mais bien qu'on les ait répétés moult fois à l'entraînement, la NASA met à notre disposition des fiches à suivre pour être sûr que l'on n'oublie rien dans le stress. Le dernier de ces scénarios, le plus anxiogène, correspond à celui de Challenger, où l'on nous demande de sauter en chute libre avant que la navette n'explose en plein vol. Lucide, il poursuit. Mais on sait pertinemment que dans ce cas de figure, on ne s'en sortirait pas. Cette angoisse d'une mort certaine est vite balayée par l'adrénaline sécrétée lors de la mise en route de ce grand manège. Le moteur fusée délivre alors toute sa puissance pour permettre à ce joli tas de ferraille de plusieurs tonnes de s'arracher à l'attraction terrestre. Cela aura pour effet de scotcher les astronautes au fond de leur siège. Ces derniers prennent un peu plus de 1 G au moment du décollage et environ 3 à 4 G à certaines phases de l'ascension, notamment au moment de la séparation des étages et quand il y a moins de carburant. Mais les effets sur le corps humain sont minimes, grâce à leur combinaison anti-G. Grâce aussi à leur entraînement, comme nous le raconte Jean-Jacques Favier. Aux alentours de 4G de poussée, cela commence à être assez lourd. Avec l'entraînement que nous avons suivi dans la centrifugeuse, cette poussée est supportable, même si vivre ces sensations plusieurs minutes, cela peut paraître long. On se sent écrasé, comme si deux personnes s'asseyaient sur votre poitrine. Au-delà des G, ce qui a le plus surpris notre témoin durant cette phase de décollage, c'est qu'aucun simulateur sur Terre ne reproduisait les vibrations. Sur nos sièges en position verticale, nous ressentions des vibrations de faible fréquence. Nos sièges vibraient et se déplaçaient de quelques centimètres. C'était vraiment très impressionnant. Quand on y réfléchit avec la casquette d'ingénieur, on se dit que cela est dû à la déformation mécanique du système. La navette se vrille en montant. C'est là que vous vous dites « pourvu que cela tienne ». Mais cette angoisse, comme les précédentes, n'aura pas le temps de faire son nid dans la tête des astronautes. La navette se sépare successivement de ses propulseurs d'appoint, puis de son réservoir externe. Et quelques instants plus tard, la délivrance. 8 minutes et 20 secondes après le décollage, nous voilà en orbite, à la bonne altitude. On coupe les moteurs, et à partir de là, on est en apesanteur. La mission commence. En apesanteur. Welcome, ladies and gentlemen, in orbital space. C'est la phrase que prononça spontanément Terence T. Hendricks pour annoncer à Jean-Jacques Favier et au reste de son équipage l'entrée dans l'espace. Des cris de joie puissants et profondément sincères ont alors retenti. À bord, il y a une vraie euphorie contagieuse. Après toutes ces années d'attente, nous voilà enfin en orbite. C'est un moment émotionnellement fort. À la manière d'un steward, le commandant Hendricks nous dit alors que l'on peut décrocher nos ceintures. Une fois détaché de mon siège, je me suis dirigé vers le petit hublot de la porte pour y voir, à travers un filtre anti-UV de 25 cm de diamètre environ, la Terre vue de l'espace. C'était un moment extrêmement fort. Nous étions au-dessus de l'Afrique, je m'en souviens très bien. Le continent défilait, et je me suis dit pour la première fois, « Mon gars, tu n'es plus dans le simulateur. C'est pour de vrai. » Dans ces premières minutes, la joie de la découverte de l'apesanteur est telle qu'elle réveille l'enfant qui sommeille en nous. Ainsi, beaucoup se lancent dans des pirouettes et des déhanchés extraordinaires. Une rave party improvisée, en quelque sorte. La drogue, l'alcool et la musique techno en moins. Tête en bas, puis en haut, ils vrillent, tournoient, gigotent, comme de vrais petits fous. Mais gare au mal de l'espace. Un astronaute sur deux, même parmi les plus chevronnés, en souffre. Beaucoup de copains se sont sentis très vite mal. Pour ma part, j'ai su ne pas me laisser entraîner par cette folie douce, résistant à la tentation de réaliser des triples boucles piquées. Je maintenais un référentiel terrestre haut-bas, avec le plancher en bas, et pour passer du mid-deck au flight-deck, je prenais l'échelle, comme je le faisais dans le simulateur au sol, afin d'éviter de flotter tête en bas. Après 2 heures d'une posture sage, que je ne me croyais pas capable de tenir, et n'étant pas malade, j'ai commencé à nager dans la navette comme les autres. C'était le pied. La fameuse Space Shuttle, navette spatiale, dans laquelle Jean-Jacques Favier a effectué son voyage dans l'espace, n'existe plus aujourd'hui. Elle était, comparée à la Station Spatiale Internationale, ISS, qui réceptionne aujourd'hui les astronautes, extrêmement exiguë, augmentant inéluctablement les zones de friction émotionnelle entre astronautes. L'ISS est tellement grande, comptez un volume d'espace pressurisé habitable de 400 mètres cubes, que même s'ils sont 6 à l'intérieur, chacun peut s'isoler quelques heures dans son module privé. Cela arrive rarement, mais cela arrive quand même. Dans une navette spatiale, on est les uns sur les autres. Entre le laboratoire, le mid-deck, le flight deck et le couloir principal, c'est en gros l'équivalent d'un grand camping-car conçu pour 6 personnes. Sauf qu'on était 7. 6 hommes et une femme condamnés à être ensemble 24 heures sur 24 pendant près de 3 semaines. Nous avions tous une impression forte de confinement. Pour dormir, nous n'avions que très peu de place. La joie d'être là-haut est immense, certes, mais il faut l'avouer, elle se mêle aussi rapidement à de la gêne. Pour illustrer ce dernier point, Jean-Jacques Favier me parle des toilettes communes. C'est assez difficile de conserver une certaine intimité quand on va aux toilettes. Celles-ci sont cachées par un simple rideau donnant sur le mid-deck, l'endroit où l'on mange et où l'on dort. Au-delà du manque d'insonorisation, ce qui est très gênant, ce sont les odeurs désagréables qui se diffusent très rapidement dans la navette. En plus, les premiers jours, les copains étaient très nauséeux, après leur cabriole en apesanteur. Il suffisait d'une odeur de dégueulis pour que tout le monde se mette à vomir tripé boyau. Le dégoût est contagieux, je l'ai expérimenté. Du coup, nous étions tous obnubilés par la crainte de boucher les toilettes en ce début de mission. Car avoir des toilettes non fonctionnelles pour 2 semaines, c'est une vraie catastrophe. Et cela est déjà arrivé au cours d'autres missions. À ces émotions logistiques, liées au cadre spartiate, s'ajoutent des émotions sociales, propres aux relations humaines et aux personnalités des uns et des autres. Jean-Jacques Favier a vécu une mission plutôt tranquille, sans grosse prise de bec et avec un équipage soudé. En revanche, il se remémore d'autres missions spatiales durant lesquelles il y a eu du rififi émotionnel. L'équipage auquel je pense a eu à gérer des problèmes techniques importants. En l'espace de quelques minutes, la sérénité et la complicité entre les membres se sont effritées. Les reproches ont vite fusé. De la colère, de la frustration et beaucoup de déception ont rongé l'équipe. Cela a eu un impact très négatif sur la mission, d'autant plus que le centre de contrôle s'en était aussi mêlé. Entre le sol et la station spatiale, il y a eu des débats houleux. Jean-Jacques Favier confirme à ce propos que la relation peut quelquefois être tendue entre l'équipage et le centre de contrôle. On se frite de temps en temps avec Houston, et j'ai souvent l'impression que les ressentis désagréables sont ascendants, qu'ils circulent préférentiellement de bas en haut. Origine des émotions négatives, la Terre. En principe, on n'a pas le droit d'innover sans avoir l'accord du sol. Toute modification de procédure qui ne correspond pas à ce qui a été scrupuleusement écrit dans les manuels est interdite. Il faut sans cesse passer par le sol. C'est très pesant. C'est comme demander la permission de minuit alors qu'on n'a plus 16 ans. Le sol épie, observe, guette, piste, scrute chacun de vos gestes. Il dispose de la télémesure qui permet de jauger tous les paramètres en temps quasi réel. Le sol voit et entend tout ce que vous faites. Si vous êtes en retard de plus de 3 minutes sur votre horaire, le sol vous rappelle à l'ordre alors que vous savez précisément ce que vous avez à faire. C'est très déplaisant. On est sans cesse en train de se concentrer sur la boucle audio, comme pendu aux lèvres de cette voix toute puissante. Comme un adolescent qui décide de se libérer de ses parents, de s'affranchir de certaines de leurs attentes en se rebellant pour devenir adulte, l'astronaute ne devrait-il pas faire pareil avec le sol, pour se transformer en réel aventurier de l'espace? Une expérience interstellaire presque intra-utérine. À bord d'une station spatiale orbitale, comme Mir, feu la station russe, ou l'ISS, les émotions désagréables liées à la taille de l'habitat laissent encore plus de place à la poésie et aux émotions positives. Extrait du journal de bord de Thomas Pesquet, le 2 décembre 2016, publié dans le Parisien Magazine. J'y suis. Quelle incroyable sensation! Je suis enfin à bord de la Station Spatiale Internationale, ISS, à 400 km de la Terre. Quand, avec mes deux collègues, l'américaine Peggy Whitson et le russe Oleg Novitsky, nous avons amarré notre vaisseau à l'ISS. C'était un soulagement. Après plus de 2 jours de voyage, je pouvais enfin sortir de cette capsule exiguë de 2,5 mètres de long. Et puis, il faut se l'avouer, j'avais hâte de découvrir la station dans laquelle j'allais rester durant 6 mois. Quand on a ouvert le sas pour accéder à l'intérieur, une vague d'émotion m'a envahi. Je n'ai pas versé des larmes de joie. J'étais super content, mais pas à ce point-là. Enfin si, j'étais heureux à ce point-là, mais je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas comme ça. Avant Pesquet, d'autres compatriotes ont vécu à bord d'une station spatiale. Ce fut notamment le cas de Michel Tognini, astronaute de l'Agence spatiale européenne, ESA, qui a effectué 2 missions dans l'espace dans les années 1990. Il a accepté de correspondre par email et de visu avec moi plusieurs mois durant, et m'a adressé cette lettre émouvante qui rend compte de ce qu'il a profondément ressenti lors de son séjour dans la station Mir. Sans filtre d'aucune sorte, il nous explique avec ses mots comment et par quelles émotions il fut contaminé dans l'espace. 27 juillet 1992. Me voilà enfin dans l'espace à bord du vaisseau Soyouz. Nous sommes 3. Ce qui est la capacité maximale de ce petit véhicule spatial russe au confort, disons, spartiate. Anatoly Solovyov, commandant de bord, et Sergueï Avdev, ingénieur de bord, m'accompagne dans cette expédition spatiale nommée Antares. Notre objectif est de rejoindre la station Mir pour y mener 14 jours durant tout un tas d'expériences scientifiques. Là-bas nous attendent 2 autres cosmonautes vivant dans l'espace depuis 6 mois. Alexandre Viktorenko et Alexandre Kaleri, avec qui je redescendrai sur Terre une fois ma mission terminée. TFE 1. Temps fort émotionnel numéro 1. La première émotion intense, je la vis en solitaire, collé au hublot droit du Soyouz, lors de la phase de rendez-vous avec la station spatiale. Un rendez-vous spatial, c'est lorsque 2 engins spatiaux habités s'apprêtent à s'amarrer l'un à l'autre. Petit retour en arrière. Nous avons passé 2 jours dans le vaisseau Soyouz et nous n'avons pas beaucoup dormi. Imaginez-vous tenter de faire un somme dans une boîte de sardines, les uns contre les autres, dans un environnement fantastique que vous découvrez pour la première fois et dont vous ne voulez pas rater une miette. Bref. Durant la phase de rendez-vous, nous avançons à la vitesse de 28 000 km/h vers la station spatiale, qui file elle aussi à cette même vitesse. Le but est de toucher l'intérieur du cône réceptacle de la station avec une vitesse relative de 30 cm seconde. Autant dire une vitesse très faible, pour ne pas se louper. Nous sommes à environ 10 km de la station et nous scrutons visuellement sur le petit écran situé au milieu du vaisseau. Nous apercevons la station légèrement à droite et au-dessus de nous. Je regarde alors dehors par le hublot droit, celui qui est de mon côté. Et je découvre la station Mir qui vole au terminateur, c'est-à-dire pile au moment de la séparation entre la phase jour et la phase nuit en orbite terrestre. Un spectacle extraordinaire qui surpasse les aurores boréales ou autres étés indiens sur Terre. Tout ce qui vole au-dessus du terminateur prend alors une couleur dorée. C'est à ce moment que je découvre notre future habitation. Un objet très grand, avec des antennes dans toutes les directions, qui font que certains astronautes vont la surnommer plus tard la libellule. Et cet objet est doré, couleur C3PO pour les fans de la saga Star Wars. Il semble immobile dans l'espace, car nous volons à la même vitesse que lui, et nous sommes légèrement en dessous. Donc, nous ne voyons pas trop le défilement de la Terre. Cet objet semble magique par cet aspect fugitif, platiné et immobile. C'est ma première sensation émotionnelle un peu surnaturelle et inoubliable de l'espace. TFE 2. 49 heures après le décollage, l'amarrage avec la station Mir s'est déroulé correctement. Me voilà désormais avec mes compagnons à l'intérieur de la libellule. Je flotte en apesanteur. La sensation s'apparente à celle que nous éprouvons lorsque nous sommes en plongée sous-marine avec le corps parfaitement lesté et équilibré. C'est une sensation agréable et qui semble naturelle très rapidement. C'est un rappel d'une condition qu'on a connue auparavant. Je crois vraiment, pour aller encore plus loin dans mon propos, que la vie psychique et émotionnelle du spationaute s'apparente à celle du fœtus. Je me sentais dans la station Mir comme dans le ventre de ma mère, protégé et serein. Toute forme d'expérience émotionnelle maternelle est transmise au fœtus. Si l'état émotionnel est agréable et positif, le fœtus en reçoit des bénéfices. C'est pareil là-haut. Si la vie de groupe intrastation est bonne, vous en percevez les bénéfices. Nous éprouvons les mêmes sensations de bien-être intense, de flottement, de retour aux sources. Au bout de quelques jours dans l'espace, je me suis surpris à prendre ma place derrière la table de la salle à manger en faisant une pirouette avant de rejoindre mon tabouret spatial. Cette manœuvre a été tellement naturelle que j'en ai été surpris. Je vois aujourd'hui la station Mir comme une station mère, porteuse en son sein, durant notre mission, d'astronautes quintuplés. Collectivement, nous avons ressenti et partagé à bord des émotions très positives, authentiques, sincères, naturelles, comme une joie enfantine. Nous ne faisions plus qu'un, émotionnellement parlant. Plus de chichi, de tabous, de normes sociales pour barrer ou contraindre la libre propagation des émotions des uns vers les autres. Là-haut, tout sonne tellement vrai. Tout est émotionnellement juste. Nous nous comprenons 5/5, sans même avoir à se parler des fois. Un même battement de cœur rythme nos corps et nos actions. Mon propos peut paraître « heal the world-esque », mais je retranscris là ce que j'ai ressenti. TFE 3. La joie est au rendez-vous de notre vol spatial. Elle se lit sur le visage d'Alexandre Viktorenko, qui chante pendant qu'il travaille comme un forcené. Pourtant, il doit préparer le vaisseau Soyouz pour le retour et doit mettre 6 mois de souvenirs et d'expériences dans le porte-bagages du Soyouz qui est vraiment petit, environ 50 kilos. Chacun va qu'à ses occupations et tout se passe en parfaite harmonie. Les mouvements des uns et des autres sont coordonnés. Personne ne se cogne ou ne se fonce dedans. Comme si ce balai en apesanteur avait été déjà répété. Les dîners nous rassemblent autour de l'unique table de la station spatiale et chaque minute de ce repas est l'occasion pour nous de sourire, de s'exclamer, de s'émerveiller comme des gamins. Nous nageons en apesanteur et dans le bonheur. TFE 4. À l'intérieur de la station, tous nos sens sont décuplés, ce qui est une autre surprise. Sans doute est-ce dû à l'irrigation sanguine de nos cerveaux, plus intense là-haut, ou alors à l'euphorie collective et individuelle, ou à la combinaison des deux. Euphorique de vivre une aventure exceptionnelle. Un peu comme ces personnes qui, une fois dans leur vie, vont à Bora Bora, ou découvrent les paysages vierges de l'Antarctique. Chaque moment est vécu intensément, comme si c'était le dernier. Pour nourrir nos sens et, par voie de conséquence, faire naître en nous tout un tas d'émotions élémentaires, il a fallu s'organiser. Prenez par exemple le sens de l'odorat. Nous avions développé dans la station spatiale un besoin fort et irrépressible, comme les chiens truffiers, ou ce héros du roman Le Parfum, de sentir. Or, une station, c'est tristement inodore. Les cosmonautes avaient amené avec eux des tubes en verre, contenant des odeurs de montagne, de terre, de foin, etc. On se retrouvait des fois à 3 ou 4 autour des tubes, comme d'autres autour d'un narguilé ou d'un grand feu de camp. Nous inhalions ces tubes, narines grandes ouvertes. Un bol d'air terrien. L'effet secondaire était immédiat. Des émotions positives nous envahissaient collectivement, et cela se lisait sur chacun d'entre nous. Muscles relâchés, sourires complices, regard rieur et tape amicale sur les épaules. Notre autre dope sensorielle, la vue. J'avais amené avec moi le DVD du film Le Grand Bleu. Lorsque nous le regardions tous ensemble, nous avions la chair de poule. Une émotion très forte. À nouveau, tout cela était décuplé dans ce huis clos spatial où chaque émotion est amplifiée par cette caisse de résonance qu'est la partie pressurisée de la station, aux parois métalliques, qu'on croirait au bout d'un moment organique. TFE 5. L'un de mes rôles dans Mir était celui d'ambianceur émotionnel, d'astronaute au nez rouge. J'étais celui qui essayait de transmettre aux autres des émotions positives, celles qui permettent de maintenir le bon moral des troupes. Un jour, par exemple, nous avions pris un vêtement de cosmonaute et nous l'avions surmonté d'un masque de Mardi Gras. Ensuite, nous avions branché le canal TV pour communiquer avec les équipes au sol. Nous avions légèrement flouté l'image pour faire croire aux contrôleurs sur Terre que nous étions 6 à bord, et non 5. Fou rire général. Quelquefois même, mes camarades n'avaient pas besoin de moi pour rire à gorge déployée. Comme ce jour où, après une semaine de vol, alors que nous étions tous les 5 réunis autour de la table, l'un des cosmonautes se mit à vomir sans prévenir. J'étais surpris de voir le jet à l'horizontale. Oui, nous sommes toujours en apesanteur. On aurait dit un cracheur de feu, sauf que ce n'était pas du feu. Moins drôle, ensuite, nous avons dû nous y mettre à plusieurs pour nettoyer, pendant 2 heures, les interstices obstrués par du vomi. TFE 6. C'est le temps des au revoir. Mes camarades de l'allée, Anatoli et Sergueï, restent à bord de la station Mir. Les deux Alexandre et moi-même sommes embarqués dans la navette Soyouz Retour, destination Terre. Alors que nous venons à peine de quitter la libellule, nous sommes plongés dans le noir. Un petit flottement, silence radio. Et là, la musique New Age d'Enigma, dont je suis fan, est diffusée sur la radio de notre navette Soyouz. Les DJ ne sont autres que mes deux amis cosmonautes russes restés dans la station. J'en avais les larmes aux yeux. Je les imaginais avec leurs petits sourires derrière nous, cherchant avec malice à me faire plaisir. Cette émotion-là, même si je ne les voyais pas, était partagée. Le retour. Un astronaute mongol a dit un jour « Sortir du Soyouz, c'est comme sortir du ventre de sa mère. » Nous y revoilà. Et cet accouchement-là est aussi violent et douloureux. Fini le flottement. Fini la sensation de bien-être. Retour à la gravité terrestre, au poids du corps pesant à traîner, au quotidien, aux aléas du monde, aux infos négatives du JT, etc. Le grand 8 émotionnel. Du haut vers le bas. Dur à encaisser. Certains astronautes ne supportent pas le changement émotionnel brutal. Certains cherchent désespérément à revivre ce qu'ils ont vécu émotionnellement dans l'espace, un peu comme le junkie qui, en se piquant, espère retrouver les sensations de son premier shoot. Peine perdue. Il faut faire le deuil, passer à autre chose. Ceux qui n'arrivent pas à se sevrer, à entamer mentalement une désintoxication émotionnelle, peuvent y laisser des plumes. Me concernant, j'ai pu traverser cette épreuve difficile en allant puiser dans mon vécu. Quand j'avais 35 ans, on m'avait brutalement jugé inapte au service, pour raison médicale. C'était un coup dur. Tout s'écroulait. La conquête de l'espace, ce serait au cinéma. Pas en vrai. Je ressentais à la fois de la colère, de la tristesse, du dégoût. Bref, j'étais mal. Et à cette époque-là, c'était par la pratique régulière du sport, la lecture, le retour aux sources, famille, amis, etc., que je m'en étais sorti. Après mes missions dans l'espace, j'ai simplement appliqué les mêmes recettes pour garder le moral. J'ai bien eu envie au début de revivre, via l'hypnose, ce que j'avais vécu émotionnellement dans Mir, cette sensation de bien-être si intense. J'ai tenté 2 ou 3 fois pour essayer, mais cela n'a pas marché. Je ne suis pas un sujet réceptif. Cela fait maintenant 17 ans que je suis abstinent à la pensée de vouloir revivre émotionnellement ce que j'ai vécu là-haut. Le dur retour sur Terre. Selon Jean-François Clairvoy, mieux vaut avoir un vol devant soi qu'un vol derrière soi. Tant la transition de l'apesanteur à la gravité terrestre est difficile et douloureuse, et pas seulement d'un point de vue strictement physique. Elle arrache violemment les astronautes à ce bien-être suprême ressenti là-haut. Comme s'ils étaient brusquement séparés de leur mère adoptive, en l'occurrence la station spatiale. Une mère non organique, certes, mais qui est, aussi étonnant que cela puisse paraître, selon Clairvoy, une extension de nous. C'est assez étrange à dire, mais c'est comme si nous ne faisions plus qu'un, le groupe d'astronautes et le vaisseau. Une sorte d'entité organique qui bat et s'émeut au même rythme. Cœur, poumons des astronautes et tableau de bord de la navette ou de la station fonctionnent à l'unisson. L'homme-vaisseau. Une nouvelle espèce est née. Et vu que nous partageons beaucoup d'émotions positives là-haut, le vaisseau fait partie de nous. Il s'imprègne de nous, de nos affects, de nos états d'âme. C'est difficile à décrire, mais c'est comme quand vous allez dans un endroit d'où se dégage un bien-être, une sorte de quiétude et de bienveillance. En ce qui concerne la Station Spatiale Internationale, au fil des années, aussi terne, froide et métallique soit-elle en apparence, elle a su emmagasiner les joies collectives, des rires et des moments d'extase. Des émotions positives qu'elle transpire et que vous captez inconsciemment lorsque vous flottez en son sein. Des ressentis forts évoqués ici ou là par la présence d'objets souvenirs accumulés par les équipages successifs depuis plus de 15 ans. La recherche de ce bien-être ultime viscéralement ressenti là-haut est vaine sur Terre. Beaucoup s'essaient, sans succès, à retrouver ces sensations perdues en pratiquant des sports extrêmes ou en occupant des postes à très haute responsabilité. Mais rien n'y fait. On ne retrouve jamais le goût de la première gorgée de bière. Après avoir tutoyé le sublime, tout le reste n'en devient, par comparaison inconsciente, que plus fade. Certains s'y perdent, rongés par l'obsession ou l'ennui. L'astronaute ressent les mêmes symptômes que les bigorexiques, comme les serial runners, totalement accros à une pratique excessive du sport. Un cas de spatio-bigorexie exemplaire est celui de Claudie Hénuret, la première européenne à avoir pénétré dans la Station Spatiale Internationale, ISS, et qui fut victime, selon ses propres dires, en décembre 2008, d'un burn-out entraînant son hospitalisation. Je parlerai ici plutôt d'un bore-out, un syndrome aux effets quasi similaires, dû, concernant Claudie, à un travail, conseillère à l'Agence Spatiale Européenne, qui ne l'épuisait certes pas, mais qui ne lui offrait pas tous les défis dont elle rêvait. Bref, qui l'emmerdait, comme l'a écrit Édouard Launay dans un article surprenant paru dans Libération. Celle qui a besoin d'Everest à gravir, de faire des choses exceptionnelles qui la mobilisent complètement, n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Tous les ingrédients étaient réunis pour rendre son quotidien, au premier sens du terme, d'un ennui mortel. La dépression gagne surtout ceux qui sont émotionnellement instables. Cela mettent du temps à récupérer de cette irradiation émotionnelle, cette surexposition à tant d'émotions intenses, et qui, même si elles sont positives et sublimes, secouent l'organisme et le cerveau de par leur puissance psychique. Certains ne se relèvent pas, tel cet astronaute de la NASA qui a volé une fois dans l'espace et qui n'a pas pu revoler par la suite. Il s'est peu à peu isolé, a développé des troubles psychosomatiques, a expérimenté un spleen profond. Et a fini par se suicider, me raconte Michel Tonini. Une fois de retour sur Terre, l'astronaute imbibé de tant d'émotions fortes ne doit pas tout garder en lui. Il lui faut impérativement, c'est quasi une question de vie ou de mort, s'essorer pour libérer le surplus en s'ouvrant aux autres. Ainsi, la vie ne s'arrête pas après un vol. Le meilleur moyen de revivre en partie les émotions fortes ressenties là-haut, c'est d'en faire le récit sur Terre. Il y a un moment dans une vie d'aventurier pour expérimenter, et un autre où l'on doit partager. On reçoit énormément, ainsi faut-il apprendre à donner, pour que circule ce flux d'informations et d'émotions. C'est pourquoi nous allons à la rencontre des gens, pour partager avec eux nos émotions. En transférant de petits bouts d'émotions ressentis là-haut, les astronautes reçoivent par effet boomerang des émotions généreuses, authentiques et énergisantes de la part de leur auditoire, qui agissent sur leur mental tels des patchs anti-spleen. Ces moments d'échange leur permettent de ressentir des émotions de substitution, dont le dosage est suffisant pour réduire ou éviter les symptômes de manque liés à l'arrêt d'une mission dans l'espace. Michel Tonini me raconte l'un de ces nombreux moments de partage où les émotions émanant de la salle agissent telles des substances psychoactives, directement sur son cerveau. Il avait ce jour-là rendu visite aux élèves d'une école défavorisée de la banlieue de Troyes. Juste après mon speech, une fille de 8 ans, dans un acte d'amour spontané, est venu me serrer dans ses bras avec une force inouïe, comme pour me dire merci. Sa maîtresse m'avait confié qu'elle avait connu de graves problèmes familiaux. Cette gamine me dit alors, les yeux humides mais en contact constant avec les miens, « Tu es mon rayon de soleil. » Les émotions qu'elle manifestait à mon égard, c'était un peu comme un shoot. Vous noterez que là encore, le vocabulaire junkie est employé. Rien que d'y penser, cela me donne envie de pleurer. Les mots que j'avais prononcés lors de mon discours lui avaient permis de s'évader l'espace d'un instant. Et sans doute avait-elle pris conscience ce jour-là que tout est possible dans une vie, à condition de le vouloir très fort. Voir des étoiles à travers le hublot de la station spatiale et dans les yeux de tous les enfants qu'on croise sur notre chemin, c'est juste magique. Pour moi, ces interactions émotionnelles sont une vraie soupape, et j'en ai besoin continuellement, pour ne pas avoir à trop penser aux ressentis uniques que je ne retrouverai sans doute jamais. Ce type de patch affectif est à renouveler sans modération, une vie durant pour chaque astronaute. Ainsi arrive-t-il à Michel Tonini de débarquer dans des prisons, comme à Toulouse, pour répandre la bonne parole et les bonnes émotions. J'avais des taulards de 20 ans face à moi. Pour eux, j'étais le symbole même de la liberté, un type qui pouvait voyager librement sur Terre et même plus loin. Je voulais absolument leur délivrer un message d'espoir pour qu'ils finissent leur peine de façon positive. Voici ce que je leur ai dit. Écoutez, l'évasion peut être intellectuelle. Voyager par la pensée et l'imagination, c'est quelquefois mieux que de partir physiquement. Et c'est en apprenant, en lisant, en s'intéressant, qu'on peut voyager dans sa tête. C'est en apprenant qu'on peut s'évader et être libre. Au début, cela semble difficile. Mais en vous cultivant, vous verrez. Vous en serez capable. La simple envie d'étudier est une jouissance et une liberté. Aucune barrière n'emprisonne votre imagination. Et nous avons tous le droit à l'erreur. Nous avons tous la capacité de nous transformer, de muter en quelqu'un de bien. La métamorphose psychique, c'est possible. Ça ne coûte pas cher. C'est juste une question de volonté. Tous ces moments de partage sont en fait des win-win émotionnels. L'auditoire est contaminé d'émotions positives qui lui feront entrevoir de nouvelles perspectives, et l'astronaute en ressort équilibré.